Jean-Marie Félix.
Entre les lignes, votre rendez-vous du livre et de l'écriture. Avec Jean-Michel Meyer, je reçois Quentin Mouron pour un nouveau chapitre des Maudits. Bonjour, soyez les bienvenus. Les Maudits, faut-il le rappeler, un titre à entendre en deux mots. Régulièrement, Jean-Michel Meyer propose à un auteur résident dans notre région d'écrire un texte original destiné à être dit sur les ondes par un comédien. Celui qui a bien voulu se prêter aujourd'hui à cet exercice de la commande, c'est l'écrivain Quentin Mouron, un jeune homme de 23 ans, un peu plus, qui s'est fait remarquer par le cercle des lecteurs au printemps 2011, lorsqu'il a publié un premier roman aux éditions Olivier Moratel, son titre « Au point diffusion des égouts ». Et puis quelques mois plus tard, Quentin Mouron a récidivé en publiant cette fois « Notre-Dame de la Merci ». Les lecteurs curieux dont nous sommes ont été nombreux à reconnaître la qualité littéraire de ces deux romans, à être séduits par la vitalité et le formidable esprit de liberté qui s'en dégage. Cet esprit, nous allons le retrouver sûrement aujourd'hui dans le texte de commande que nous a livré l'auteur, texte intitulé « Le souper de classe ». Bonjour Quentin Mouron.
Bonjour.
Ça fait toujours plaisir de vous accueillir. Vous connaissez bien maintenant notre salon de lecture. Vous y êtes déjà venu deux fois pour présenter vos deux romans.
Oui, maintenant c'est vrai que je connais les lieux, ce qui est déjà bien. J'ai plus besoin de me perdre dans les sous-sols avec l'ascenseur. Et puis en même temps, c'est des têtes connues aussi. C'est très agréable.
La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était donc au mois d'octobre dernier. Vous êtes venu nous parler de votre deuxième roman, Notre-Dame de la Merci. 4 mois se sont écoulés depuis. Que s'est-il passé de remarquable dans votre vie, en tout cas sur le plan littéraire?
Alors je vais m'en tenir au plan littéraire. Je crois que c'est peut-être c'est plus sage. Non, je pense que sur ce qui s'est d'une part passé, c'est un succès qui a été tout à fait tant critique qu'un succès du lectorat, disons.
C'était déjà le cas à l'époque.
C'était
hein.
le cas à l'époque, mais là c'est vrai que ça s'est accentué. Les retours que j'ai eu depuis là ont été excellents sur les deux livres. Le premier livre, j'étais en tournée électorale auprès des classes de lycée, collège et gymnase pour le premier livre, où j'ai été en finale du prix du roman des romans, qui ne m'a pas été attribué.
Qui a été décerné finalement à Nicolas Verdant.
À Nicolas Verdant, voilà.
Un très
exactement.
Bon livre aussi. Et vous étiez en lice dans les derniers.
Oui, voilà. Oui, donc on était en lice les trois avec Jean-François Haas. Ouais. Et puis ensuite le premier livre donc a reçu le prix Alpes Jura que je vais chercher au Salon du Livre de Paris le 23 mars. Donc c'est vrai que c'est des choses qui font plaisir, disons, qui flattent bien évidemment, mais qui en même temps permettent aussi de donner au livre une extension nouvelle, de le propager encore plus loin.
Cette reconnaissance, tous ces honneurs, ça ne vous fait pas peur, vous? Vous arrivez encore, vous parvenez à garder la tête froide? Parce que ça a été très vite, hein?
Oui, mais c'est pas une reconnaissance qui est unanime, disons. Je pense que chaque fois que je me fais un nouvel ami ou un nouveau sectateur, je me fais en même temps un nouvel ennemi et en même temps contempteur. Donc c'est vrai que...
Contempteur,
je crois.
Absolument. Le terme est joli.
Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose... Ça va en parallèle. J'ai l'impression que là, maintenant, évidemment, j'ai une... Je crois être apprécié par certains dans le milieu littéraire, mais également à l'extérieur. Et puis en même temps, je sens aussi une pression négative, une pression aussi une... Je veux pas dire une haine, ça existe pas dans ce milieu, mais disons une... Bien entendu, mais disons une...
Un scepticisme.
Un scepticisme, hein. Ou alors... Voilà, exactement. Donc c'est finalement une récompense qui a son le revers et j'accepte les deux.
Ce n'est en tout cas pas un scepticisme que vous suscitez chez les journalistes du quotidien Le Temps, puisque à l'époque des bilans, c'est-à-dire en fin d'année 2012, ils vous ont mis à peu près sur le même niveau que Patrick Deville, Pascal Quignard, Toni Morrison et tiens, un certain écrivain de chez nous aussi, Joël Dicker.
Oui, absolument.
Pas mal comme...
Oui, c'est vrai que je pense que c'était vraiment... Oui, ça m'a fait très plaisir de prendre connaissance de ce bilan de fin d'année. Et c'est vrai que ça a été aussi une belle récompense pour ces deux livres et pour le travail que j'ai fourni jusque-là.
Alors, Quentin Mouron, si vous êtes là aujourd'hui entre les lignes, ce n'est pas pour parler de votre bilan personnel, mais surtout pour faire entendre un texte que nous vous avons commandé. Est-ce que c'est la première fois qu'on vous passe commande?
Je crois que c'est la première fois, oui.
Jeune parcours littéraire.
C'est la première fois, oui. Et puis en plus, pour être lu comme ça, donc oui, alors c'est vraiment la première fois. On m'a sollicité des fois pour des revues ou des magazines, ou pour des... mais c'était, je donnais en général quelque chose qui existait déjà. Donc c'est vrai que l'écriture d'un texte original, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Aussi, de le penser pour la radio a été aussi fait partie des enjeux, disons, du texte. C'est-à-dire que je me concentre de toute façon toujours sur un rythme et en même temps sur un fond qui doit être crédible, qui doit avoir certaines, disons, certaines qualités pour me satisfaire. Mais là, c'est vrai qu'en plus de penser qu'il allait être dit à la radio, c'était quelque chose de nouveau. Et puis, j'ai eu plaisir à me prêter à cet exercice.
Et cette commande, c'est Jean-Michel Meyer qui vous l'a passé. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jean-Marie. Bonjour tout le monde.
Pourquoi ce choix de Quentin Mouron?
Parce que j'aime pas du tout ce qu'il écrit.
C'est bien connu.
Non, je trouve que c'est un privilège d'avoir une sorte d'espace éditorial et radiophonique à proposer lorsqu'on a été touché, frappé par la lecture de livres comme c'était mon cas avec les deux livres de Quentin Mouron. Et puis, il y a quelque chose, il y a souvent une façon de... Il y a un rythme, il y a une musique... Il y a une manière souvent de parler à la première personne. Il y a différentes choses qui me disaient que j'avais envie de lui proposer ce que je lui ai proposé et que vous allez entendre dans un instant.
Est-ce que vous aimez bien aussi, je le sais par expérience, c'est travailler de manière très étroite avec les auteurs? Est-ce que ça a été le cas cette fois avec Quentin Mouron?
Pas tellement. Il m'a montré un texte qui ressemble beaucoup à ce que vous allez entendre. Je l'ai lu dans ma tête pour moi, et puis je lui ai fait part de mes doutes ou de mes questions sur des points de détail. On a fait quelques petits changements comme ça au téléphone en se relisant le texte l'un l'autre, mais vous allez l'entendre, il y a une langue qui n'est pas toujours polissée, et ça je crois qu'il fallait le garder, qui est travaillée, mais travaillée parfois aussi dans une certaine brutalité.
Il vous semble que cette langue qu'on va entendre a quelque chose de plus brut, de moins polissé justement que ce qu'on a pu lire dans les romans de Quentin Mouron?
Je ne sais pas, parce qu'il y a ça aussi, notamment dans le premier, dans le point d'effusion des égouts. Mais peut-être que là, on est dans quelque chose de... C'est une adresse, c'est plus court, ça renvoie à un moment très concret, quelque chose de très autobiographique. Et ça donne une impression de jeter, comme ça, peut-être plus, je ne sais pas, que les livres précédents.
Je pense qu'il y a peut-être moins d'effusion lyrique que dans les deux premiers, où c'est vrai que les passages comme ça, très concrets, et souvent entrecoupés de passages peut-être plus poétiques, plus oniriques peut-être. Tandis que là, c'est vrai qu'on est dans quelque chose de tout le temps, c'est plus court, plus concentré, on est dans quelque chose de très concret tout le long. Et donc ça, je pense que ça peut... Ça peut peut-être dérouter les lecteurs ou les enchanter, en tout cas c'est...
Les auditeurs.
Les auditeurs, voilà, même mes anciens lecteurs.
Ce sont des auditeurs.
Ah oui, si parmi les auditeurs, il y avait quelques lecteurs. Mais en tout cas, je pense que c'est un texte qui peut surprendre.
Ce qu'on va entendre tout à l'heure, c'est bien évidemment votre texte, Quentin Mouron, mais c'est aussi une musique qui va accompagner ce texte. Et cette musique a été composée et interprétée par un autre invité, celui qu'on peut nommer, on peut lui attribuer le titre de pote, parce que le pote, c'est un terme qui revient souvent dans votre texte.
Je pense qu'au moins, on peut parler d'un pote.
Oui. Sylvain Papoteau est l'un de vos potes. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Dites-nous quels sont les liens d'amitié qui vous relient à Quentin Mouron.
Ou alors ça remonte à bien longtemps, mais avant peut-être même l'amitié, il y avait déjà une admiration qui était vraiment d'ordre artistique, où je lisais ses textes, j'ai lu ses premiers poèmes, dont je me rappelle un magnifique, Le soldat érotomane, que j'ai lu, il avait 17 ans quand il a écrit ça, et j'étais complètement scié par déjà l'audace de son écriture et le talent pour ce jeune homme. Et petit à petit, par admiration... réciproque, lui m'entendait jouer en bas quand il était avec mon frère, et petit à petit on s'est rapprochés et notre amitié est née d'abord de ce rapport plus distant et ensuite et d'abord artistique et admiratif, et ensuite vraiment l'amitié est venue.
Oui, je voulais dire que je ne vous connaissais pas, Sylvain Papoteau, avant que nous fassions cette expérience ensemble. Et que c'est vous, Quentin, quand je vous ai dit qu'il est possible d'avoir un musicien, de dialoguer, d'installer un dialogue entre mots et musique, qui m'avait parlé de Sylvain. Et voilà, ça s'est construit comme ça, mais Sylvain, vous faites partie non seulement des amis, mais même du monde de Sylvain, des histoires qu'il raconte.
De Quentin,
vous apparaissez même sans doute en creux dans le texte qu'on va entendre tout à l'heure.
Vous faites partie du cercle rapproché.
Oui, et même des livres. Enfin, il y a certaines allusions dans les livres où le personnage, ce sont des anecdotes de moi ou d'autres comme ça.
Quentin, ce texte dont parlait à l'instant Sylvain n'a jamais trouvé preneur parmi les éditeurs. Olivier Moratel ne s'y est pas intéressé encore.
Il est très intéressé. Moi, quand je me suis permis de lui le faire lire, il m'a dit « Mais ça serait un début de roman génial, il faudrait travailler ça. » Moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire pour le prochain. Donc là, c'est plutôt un intermède. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il, s'il était plus long, il serait intéressé. Je pense pour des raisons logistiques, il ne va pas sortir un petit opuscule. Mais c'est vrai que non, je pense que c'est vraiment, ça a plu à Olivier Moratel. Et c'est vrai qu'on disait, on parlait de la collaboration avec Sylvain, c'est vrai que pour moi, ça a été quelque chose de tout de suite assez important parce qu'on en parlait, on en a parlé entre nous déjà depuis un certain temps. On se disait, mais est-ce qu'on pourrait collaborer une fois sur un projet concret, pas seulement boire des verres et s'échanger nos points de vue sur ce qu'on fait respectivement, mais mêler les deux arts. Et je crois que c'est vrai que ça a été l'opportunité que nous a donné Jean-Michel Meyer de se retrouver, de faire vraiment un projet qui n'est pas de la musique plaquée sur un texte ou l'inverse, mais qui est vraiment un vrai dialogue entre un auteur et un pianiste.
Voilà, pour la forme, il faut dire deux mots du contenu de ce qu'on va entendre. Le souper de classe, c'est, je le dis de manière très résumée, le récit d'une soirée catastrophe entre contemporains, entre jeunes contemporains. C'est quelque chose qui pourrait paraître un peu anodin et qui pourtant prend chez vous une dimension carrément existentielle. Comment cette thématique s'est imposée à vous ?
Je pense que c'est, d'une part, par expérience personnelle. Là, dans ce texte, j'essaie de ne viser personne en particulier. C'est vraiment des... Je vise quand même quelques personnes, mais disons, je relate pas une expérience personnelle, c'est plutôt une expérience plus générale qu'il arrive au fond quand on se retrouve entre anciens collégiens, entre anciens gymnasiens, entre anciens étudiants d'une même faculté, entre anciens collègues. Quels sont les mécanismes qui se mettent en place et finalement quel regard celui qui est invité porte sur les autres, et ça m'intéresse disons à plusieurs égards. D'une part parce que ça permet de traduire tout un espèce de vieillissement, d'épérissement des individus, et puis
à 23 ans déjà.
Mais c'est un texte, je pense que ceux qui se retrouvent entre anciens collègues d'une quarantaine, d'une soixantaine d'années doivent aussi pouvoir s'y retrouver dans ce texte. Donc mais oui, je pense qu'il y a un dépérissement qui vient très tôt, même avant 23 ans, bien entendu.
Jean-Michel ?
Non, je ne veux rien dire. Je veux peut-être dire que ça serait bien de l'écouter, parce que finalement, c'est très simple, très explicite. Et puis, on glose après.
On dit quand même que vous avez confié le texte de Quentin Mouron à un comédien avec qui vous aimez travailler. C'est Felipe Castro. Pourquoi ce choix aussi ?
Pourquoi ce choix ? Parce que Felipe est très intelligent, que le texte en question a quelque chose d'hypersensible et un peu écorché, et que je trouve ça chez Felipe, et que c'est un des comédiens de Suisse romande que je préfère.
Voilà. Et bien voilà, il est grand temps maintenant de découvrir ce texte intitulé Le souper de classe. C'est donc Felipe Castro qui s'en est emparé. La musique est interprétée par Sylvain Papoteau et la réalisation signée Jean-Michel Meyer.
le souper de classe. C'était la fin de l'été, à Lausanne. Je rejoignais des copains de classe quittés 2 ans plus tôt. Thomas m'avait appelé en disant « Salut l'écrivain, comment va le succès ?» Le genre d'amorce à me faire raccrocher, j'allais le faire. C'est pour te dire, avec Camille, on organise un souper de classe, les anciens de la M9. J'aurais voulu répondre que cette Camille était une conne, lui-même un abruti, et que je n'avais en 3 ans jamais parlé à l'un ou l'autre. Mais ma colère s'était muée en bredouillement, j'avais fini par accepter. Mon espoir reposait sur une poignée de types avec qui j'avais des bons rapports. Il y a quelque chose de contre-nature dans le concept de souper de classe. Je comprends qu'on se retrouve entre gens de même sensibilité, pratiquant une même activité ou baisant la même femme, mais se retrouver, parce qu'on a eu le malheur d'être asphyxié 3 ans au même endroit, de porter tous le même numéro 9, la raison m'apparaît pas patente. Je voyais, en raccrochant, les salamalecs glutineux qu'il faudrait accomplir, la fausse extase et la gaieté forcée. Je me voyais accoladant tous ces crétins, dire aux moches qu'elles sont belles, aux chassieux qu'ils rayonnent, aller jusqu'à leur dire que j'ai plaisir à les revoir. Ça n'allait pas seulement être une corvée, ce serait un authentique numéro de cirque. C'est eux, Thomas, Camille, que j'ai croisé en premier sortant de la ruelle, devant le Great Escape. Les autres n'étaient pas arrivés. Il a fallu qu'on se cause, qu'on se donne du quoi de neuf, du comment vont les études et du ça marche bien tes livres. Camille étudiait le droit à Genève. Thomas avait commencé le droit aussi et puis s'était tourné vers le commerce. Ils étaient tous les deux inscrits au PLR. Lui était fringué style jeune trader fun, veston marine, pantalon taille basse et converse noire. Elle faisait déjà un peu plus dame, avait une jupe courte et un chemisier vaguement décolleté. Je ne t'ai pas encore lu, elle m'a dit, en insistant sur le « encore », pour me faire croire qu'elle le ferait une fois. « Moi non plus », a dit Thomas, « mais j'ai lu des articles. Mes félicitations. » Je voyais qu'ils brûlaient de me demander le blé que je gagnais. C'était inscrit en capital sur leurs prunelles. Ils attendraient, peut-être. Ça viendrait pas tout de suite. Thomas, qui prenait au sérieux son rôle d'organisateur, a fait signe au serveur et dit qu'il avait réservé. Le mec tombait visiblement des nues. Il a protesté qu'on lui avait rien dit, qu'il savait pas, que d'habitude personne ne réservait. Il est entré pour demander à son patron. Thomas était vert. Il avait beau nous dire que le marché sanctionnerait, il était quand même bien vénère contre l'outrance de ce bar de gauchiste qui snobait sa réservation. Le serveur est revenu, qu'il était désolé, mais qu'on pouvait s'installer même si c'était serré. Ils ont soupiré en disant que c'était incroyable. Moi, je trouvais pas que c'était incroyable. C'était sans doute pour eux un événement. Je me vante en disant qu'il m'arrive quand même des trucs plus incroyables que ça. Plus révoltant aussi. Il y avait 2 tables en fer qui étaient libres. On s'est assis. Thomas a commandé une bière en prenant un air canaille. « Elle boit pas trop quand même », lui a dit Camille. « Mais non, t'inquiète, j'ai l'habitude. » Elle aussi a commandé une bière, une bonne petite mousse. J'ai commandé du vin. « Ah oui !» a remarqué Camille, « c'est la boisson des écrivains. » J'ai failli dire au serveur que non, de m'amener du thé, 3 coca, 2 Red Bull ou un sirop citron, n'importe quoi pour faire taire cette connasse. « Moi, je suis très bière », a dit Thomas. La soirée s'annonçait mal. Il me faudrait les supporter longtemps. J'avais mis une option sur un after avec des potes. J'allais peut-être tenter de le précipiter. 1 heure de plus, je tiendrai pas. Et puis les autres sont arrivés. Tous en moins de 10 minutes. On s'est salués comme je l'avais imaginé. Des rafales de quoi de neuf, la forme, oui, la forme, t'as pas changé, toi non plus. Moi, au contraire, je l'ai trouvé changé. En à peine 2 ans. Étrangement transformé. Un peu pâli. Racorni. J'ai rien dit. Je voulais pas être désagréable. C'était peut-être moi qui délirais. Il faisait nuit, possible que je peignais en noir. Ça me faisait quand même plaisir d'en voir certains. Ça faisait un bail qu'on s'était quitté à la fête des promos, ivre mort, en surlant qu'on allait se revoir, et puis pomme, les circonstances. L'uni, les voyages, les hautes écoles. J'avais gardé contact qu'avec une paire de potes. Les autres, je les avais au mieux croisés au détour d'un couloir, on s'était rien dit. Thomas jouait les hôtes. Il accueillait tout le monde à grands cris, leur tapait sur l'épaule. Il en était à sa 3e bière, étonné à nous le faire savoir. Quelques autres s'écriaient que ce soir, il voulait faire la fête. C'est-à-dire, je vous traduis, boire quelques verres en faisant semblant de s'amuser, rentrer chez soi vaguement chancelant, se mettre au lit et poster le lendemain sur Facebook que « Putain, hier, c'était la teuf du siècle ». N'allez pas vous outrer. Il n'était pas du genre à se rouler par terre, ni débarquer le samedi soir dans une église, arguant qu'on allait être dimanche. à traverser une table en verre parce qu'on s'est enculé dessus, à escalader la façade d'un hôtel pour entrer dans une chambre, à ramener des putains travestis dans la maison d'un type qu'on ne connaît qu'à peine, sonner chez le voisin, habillé en SS, pour lui vendre la Pologne, ni rien de ces cocasseries qui font le sel de ce que, moi, j'appelle une fête, et qui n'a pas grand-chose à voir avec un triste souper de classe en compagnie du PLR. Quel triste cire je fais. On me l'a déjà dit. À Las Vegas, souvenez-vous, mon premier livre. Mais alors, cette fois, pensez, avec 1 ou 2 ans de plus et 60 000 kilomètres de poussière, de la poudre dans le nez, si j'étais pas à rigoler. On manquait de place. On s'est spontanément rassemblés en plusieurs cercles autour des tables. Je me suis posé avec mes potes et quelques autres, avec qui j'avais eu des bons rapports et des souvenirs de notre voyage d'études à Prague. C'était l'occasion de se rappeler certains éclats. Comment on s'était retrouvé à acheter 60 bières sans alcool, par erreur. Comment on avait vomi dans les fleurs d'une terrasse, comment si, comment ça. Je le dis honnêtement, c'était un bon moment. Seulement, après 1 quart d'heure, j'avais envie de sonner la cloche du présent, dire « Ok, les gars, c'était sympa, mais qu'est-ce que vous vivez maintenant ?» Il parlait du présent aussi peu que possible. Peut-être que c'était trop risqué, que ça allait niquer l'ambiance. Il y en a un qui a dit « Je crois que c'était une des plus belles périodes de ma vie. » Ça me dépassait qu'on puisse conclure sa vie comme ça, à 22 ans. Qu'on ait déjà trié, dessiné des périodes, des époques, qu'on se soit persuadé que le meilleur était derrière, qu'il n'y avait plus que devant nous des ronces et du brouillard avec peut-être encore quelques sursauts de joie. Alors j'ai compris le malaise du début que j'avais ressenti. Ce n'était pas à proprement parler physique, c'était ailleurs, la manière d'être, ce qu'ils disaient, leur façon de parler du passé, d'envisager l'avenir. C'était dedans qu'ils étaient devenus blancs. On continuait à parler de Prague, des profs qu'on avait eus, de celui-là qui était con, de l'autre qui l'était moins, des chimistes qui picolaient le matin, ou de ce prof de français qui s'était pendu 1 mois après sa retraite, et qui il y a longtemps s'était battu avec Chasseur en sortant d'un bistrot. Ça nous faisait bien rire. On avait lu L'Ogre en 2e année. Bon, c'était pas un bon souvenir pour tout le monde. Ceux qu'on avait bavé disaient que c'était pas possible d'écrire un bouquin aussi plat. On était quand même plusieurs à le défendre, que ça nous avait plu, que ça valait pas la confession ou le crâne de Monsieur Sade, mais que, quand même, c'était de la bonne bourre. Ils m'ont demandé si je pensais que j'étais le nouveau Chasset, comme l'avait écrit le Canard Local. On m'a souvent reproché cet article, comme si c'était de ma faute. Ils avaient lu Au point d'effusion, et tenaient à me féliciter. Ils avaient apprécié et se réjouissaient que le deuxième paraisse. C'était sympa de leur part, ils avaient l'air sincères. Ils m'ont posé quelques questions sur mes projets, si je comptais partir, ou bien rester, faire un master, ou m'arrêter, si j'allais encore écrire d'autres livres, si je comptais en vivre. J'éludais parce que je n'en savais rien. Non seulement j'en savais rien, mais je ne m'étais jamais sérieusement posé la question. Eux se l'étaient posé. Et même souvent. Et pas seulement à propos d'eux, de moi aussi, des autres. Certains avaient un plan de carrière. D'autres se laissaient la liberté d'improviser un peu. Ils étaient partis dans des voies différentes. Ils avaient fait différentes choses, certains étaient en couple, d'autres non. Ce qu'ils avaient en commun, c'était la certitude d'être passés à une nouvelle époque. Cette idée fixe qu'ils avaient me foutait le bourdon. Je me suis excusé pour passer à un autre cercle. Je suis d'abord allé taper la bise aux innocents. 3 filles et 1 mec, qui étaient déjà mortellement sages au lycée et qu'ils sont restés. On s'entendait plutôt bien. Peut-être les avais-je fait frissonner quelquefois. C'est possible. Eux aussi, ils m'avaient fait frissonner. Là, à les voir tous tendant de toutes leurs forces vers un job d'enseignant au primaire, je m'angoissais un peu. Les filles avaient une sorte de chignon informe et des lunettes à bordure rouge, qui devaient sans doute marquer une discrète allégeance féministe. L'une avait tenté la mini-jupe, qu'elle tirait sur ses jambes toutes les 2 minutes. Les autres avaient un style naturel, sans chichi, pratico-pratique, qui devait leur aliéner pour longtemps le moindre regard de convoitise, mais leur demandait moins de boulot le matin, et 1 quart d'heure de plus pour dormir, je peux te dire que c'est précieux. Le mec était encore plus informe. Ils discutaient d'un obscur point de pédagogie quand je suis arrivé. Ils m'ont fait de la place, très obligeant. On s'est encore une fois demandé comment est-ce qu'on allait. On se le demandait très souvent quand on était en classe ensemble. On ne s'est, à mon souvenir, jamais à rien demandé d'autre. Ils n'avaient pas l'intention d'aller en boîte après, comme l'avait proposé Camille, mais ils venaient quand même boire une bière parce que c'était sympa de se revoir. Je leur ai dit que je n'avais pas l'intention d'aller en boîte non plus. Ils avaient l'air contents de ne pas être seuls. L'une venait de se fiancer. Après 4 ans, c'est normal. C'était normal, en effet. Je l'ai félicité, qu'aurais-je pu faire d'autre? Je suis tenté de me convaincre que c'était son choix. Elle avait l'air heureuse comme ça. Les trois autres aussi avaient l'air en pleine forme et satisfaits d'eux-mêmes. Il y avait moins de regrets que dans le cercle des copains. Ils m'ont parlé de Prague, mais pour me raconter ce que d'autres avaient fait. Des anecdotes de deuxième main que je connaissais déjà. D'où venait leur passion d'enseigner? Il n'y avait pas de passion. Il y avait bien le mot « passion », mais il ne signifiait rien. L'un était fort en français, l'autre en maths, l'autre en biol. Ils enseigneraient le français, les maths et les sciences naturelles. Ajoutez qu'ils avaient toujours aimé le contact avec les enfants et les jeunes. « Tu nous enverras tes gosses », a dit l'une des filles. J'ai craint qu'ils ne me demandent combien j'en voulais et dans combien de temps. J'ai détourné la conversation, les fait rouler au lieu commun. On s'est raconté nos vacances. Qu'elles étaient trop courtes, comme toutes les vacances. Qu'il n'avait pas fait beau. Le paléo avait été merdique, d'affiches et puis de météo. De peur qu'ils reviennent sur le chapitre des mômes, je me suis excusé. Et j'ai changé de cercle. Celui des artistes envieux. Des écaliens fumeux. Et d'autres, plus obscurs encore, qu'on avait recalés. Tous m'en voulaient d'avoir écrit un livre. J'allais quand même leur serrer la main. Les tremblements que j'allumais, j'étais très fier, mesquinement satisfait. Ils m'ont touché du bout des doigts, vraiment à l'extrémité. Ils m'ont laissé le soin de me présenter à un type que je connaissais pas, qui n'était pas dans notre classe, mais qui semblait moins con. Mon arrivée avait créé un tel froid qu'ils avaient oublié de quoi ils causaient et restaient silencieux, mal à l'aise, à pas trop savoir. Je me suis enquis de l'inconnu, lui ai demandé ce qu'il faisait. Il était drôle, parlait vite, semblait timide mais bavard. Charmant mélange. Qui travaillait sur un projet, un monceau de bordel qui représentait le territoire palestinien et qui diminuait progressivement pendant l'exposition. Le concept, c'était que chacun pouvait partir avec la pièce qu'il préférait. À la fin, il ne devait plus rien rester, qu'un cadre vide. C'était ingénieux. Il m'a dit que ses potes trouvaient ça trop concret. Quoique instinctivement pro-palestinien, il trouvait que la question était plus compliquée que ça. Et il préférait suspendre leur jugement. Je lui ai dit que pour ma part, je trouvais son projet très bien et que la question n'était finalement pas tellement compliquée. Il m'a demandé si j'avais l'intention d'écrire un autre livre. Ouh là là, le tabou qu'il violait. Les autres ne parlaient plus, ils étaient médusés, ils nous mettaient en flou. On a discuté 20 bonnes minutes, de ses projets, un peu des miens. On était seuls à faire du bruit. Les autres se murmuraient des trucs, des changements de plan, leur soirée à volo. La mienne reprenait des couleurs grâce à ce type. Peut-être le traînerais-je à mon after, je lui en ai parlé. Il a cherché du regard les copains, qui ont baissé les yeux. Je l'ai pressé d'accepter, de toute façon ses potes étaient perdus. Il a finalement dit oui, topé là. Un des affreux a proposé d'aller fumer un joint. Il faisait diversion, j'ai saisi la manœuvre. J'ai agrippé mon nouveau pote, lui ai fait un clin d'œil. Que j'avais mieux. Qu'il me restait en poche de quoi faire deux fines lignes. Que c'était pas grand-chose, mais qu'à côté de leur pétard obèse. Il a pas voulu suivre. Il est parti avec les autres. Je suis allé aux toilettes. Quand je suis revenu, j'ai attaqué le dernier cercle. Le plus populeux. Celui au milieu duquel trônait Thomas. Il se donnait des airs de parler politique. Une sorte de débat qui n'allait nulle part entre le PLR et quelques socialistes. Il parlait du salaire minimum à 4000 francs. Je voyais que ça tournait court depuis un bon moment. Il manquait de l'empathie nécessaire pour aborder n'importe quelle question sociale. Il ne faisait qu'un peu de bruit, animait leur soirée. Entre deux rots de bière, une idée fulgurait, au hasard, ils en faisaient une arme pour faire tenir la fête. Ils ont voulu me mettre dans la combine. Ce que je pensais? Je suis pas du genre à me défiler. Tiède, qui prétend avoir besoin d'examiner davantage la question. J'ai répondu que j'étais pour le salaire à 4000 francs. Que j'avais même le fantasme de ramener tous les salaires à 4000 francs. Que 4000 francs, c'était parfait. Ça permettait de vivre en se tenant à la lisière de la connerie. Thomas, pour m'éluder, a dit « Ah oh là là, ces artistes, qu'est-ce qu'on ferait sans eux ?» Camille s'est marrée. Les socialistes aussi. J'étais grillé. Mon pote de tout à l'heure n'était pas revenu. Sans doute les hipsters l'avaient-ils embarqué. J'avais visité tous les cercles. Celui des copains m'avait fait mal. 22 ans, c'est pas vieux. Mais c'est une sorte de purgatoire. Qu'on passe du mûrissement au pourrissement. Ça se décide à 22 ans, parfois avant. J'ai mis un message à mes amis, les vrais. L'after, ils l'avaient commencé. Ils y étaient depuis midi. J'en perds certains, mais j'ai gagné les autres, depuis longtemps. En altitude, la forêt s'éclaircit. Je visais le sommet.
Thank you.
après le souper de classe. Je crois que c'est ça qui m'a poussé à publier, au fond. L'horreur du souper de classe. L'intolérable normalité. Ils sentaient la cave, mes potes. Ils avaient déjà les deux pieds dans la tombe. Il n'aura plus qu'à creuser maintenant. Creuser. C'est la peur de basculer qui m'a fait publier le point. Après, je me disais, j'aurais fait quelque chose. Pas grand-chose. Quelque chose. Que je pourrais serrer mon livre contre ma poitrine quand je ferais les courses, que j'achèterais des couches, ou bien verrais ma femme pourrir. Toute ma lumière viendrait de là, de mes 140 pages. Que le bouquin soit mal ficelé, peu fini, pas parfait dans l'ensemble, j'admets. C'était seulement manière de terminer le souper de classe. D'abréger, de sortir. Peut-être me fuir quelques années. À 22 ans, je me disais que j'avais de la chance de ne pas avoir à tout envisager en noir comme ceux du cercle des copains. Je cumulais des expériences inoubliables, des trans, je baisais plus qu'avant, bien plus qu'avant, et que tous mes potes du lycée mis ensemble. J'avais donc pour moi une façon de prolongement, mes accès au vertige. Publier le point, c'était vraiment me mettre à l'abri, loti au ciel. J'ai dit ailleurs que c'est par vanité que j'avais écrit. C'est bien pire, en vérité. C'était uniquement pour éviter le souper de classe, qui se répéterait de plus en plus souvent, se déclinerait, se dériverait, qui prendrait la forme du barbecue entre amis, des vacances avec deux autres couples ou des soirées contes et mystères. Bien sûr que je participerais, mais j'irais de temps en temps me faire vomir dans les toilettes, sortant le poing, me persuadant devant la glace que je ne suis pas tout à fait mort. Je reviendrai comme si de rien n'avait été. Un sourire aux convives, un baiser sur la bouche de ma femme, une main sur son ventre. Je le sens bouger. Une liesse d'apparence. Me laisserais-je aller aux confins de la déchéance, je pourrais dire au moins que j'ai fait ça. Un livre. Encore une fois, ce n'est pas grand-chose, c'est quelque chose. 140 pages. Qu'on ne m'enlèvera pas. Les autres aimeraient bien m'en priver, je le sens, les potes. Que ça les démange vraiment, ce bouquin, les intolère. Ils ont des gaz. Ils détestent la distance. La différence pourtant est infime, je le rassure. J'ai une bouée, ils en ont pas. Je me noierai, un peu plus tard. C'est seulement de crever avant moi qu'ils refusent, de pourrir. Que ça les rend cyniques, ils sentent que les cartes sont jouées, c'est fait. Ils ont partitionné leur vie, tracé des époques qui s'abouchent, se résolvent. L'époque heureuse, le lycée, c'est terminé. Ils entrent dans la vie adulte, sérieuse, l'époque des emmerdes et de l'effort. Ils sont encore jeunes, ils le disent, mais lestés de responsabilité. Ils attendent maintenant que cette époque s'aggrave, qu'elle s'alourdisse encore, la fameuse crise de la trentaine, celle de la quarantaine. Ils auront peut-être encore une crise ou deux, et puis l'époque de la retraite. Ils se voient avec des cheveux blancs, reposés et des gamins partout. Ensuite, ils meurent. Faut pas te faire d'illusions. Oh non, pas d'illusions. Je veux bien. Seulement sauver quelques années encore. Pas me jeter trop vite au trou. C'est compréhensible. Alors j'écris encore. Et j'ameute la presse. Bien sûr, il n'y a pas que les 140 pages. Il y a aussi et surtout les articles, les belles photos et mon blouson qui brille. J'ai pas tant d'ego, je me regarde pas tous les jours ou caresse mon bouquin, non, seulement après les soupers de classe. Pendant même. Là oui, la nécessité. Que j'ouvre un journal au retour, même 13 sous, ma gueule, je veux voir ma gueule. Qui je suis, pas ordinaire, je veux voir et lire et entendre que je suis un peu au-dessus du commun des mortels. Pas grand-chose. Un demi-pouce. Juste me convaincre. Cette petite différence qui fait que je ne suis pas encore en train de me dissoudre dans l'habitude. M'en voulez pas. Je ne suis pas prétentieux, cynique non plus, seulement désespéré.
Thank you.
Voilà une dernière ponctuation musicale signée Sylvain Papoteau pour donner une résonance à ce texte de Quentin Mouron, Le souper de classe. Le comédien Felipe Castro s'en est emparé aux côtés de Jean-Michel Meyer qui lui en a assuré la réalisation radiophonique. Nous sommes entre les lignes sur Espace 2 avec Jean-Michel Meyer. Je reçois l'auteur Quentin Mouron et le musicien pianiste Sylvain Papoteau. Quentin Mouron a bien voulu se prêter à l'exercice de la commande littéraire en nous livrant récemment le souper de classe, un texte qui sous ses airs un peu débonnaire brasse quand même des questions existentielles, on a pu l'entendre, existentielles pour un jeune homme de 23 ans, peu enclin à faire des concessions avec la vie. Alors Quentin Mouron, on l'apprend à nos auditeurs, peut-être qu'on le rappelle, vous n'avez encore pas entendu la réalisation radiophonique de Jean-Michel, ni l'interprétation qu'en a faite le comédien Felipe Castro. Est-ce que cela vous a permis de redécouvrir votre texte aujourd'hui en direct sur Espace 2 ?
Oui, je crois que j'ai été vraiment remis dans l'ambiance beaucoup plus que lorsque je lisais. Donc contrairement à ce que j'ai affirmé au début de l'émission, je crois que je visais quand même certaines personnes en particulier dans ce texte. Je crois que ça a été très clair en le réentendant. Et c'est vrai que la musique permet vraiment de combler les non-dits du texte, notamment entre les deux parties principales. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on a ça me permet vraiment en le découvrant de voir qu'il y a quelque chose de linéaire et qu'on commence pas seulement avec le souper de classe, que ça commence avec la musique et qu'il y a cette progression qui se fait jusqu'aux dernières notes.
Vous nous disiez en début d'émission, début d'entretien, que vous avez travaillé ce texte pour l'oralité. Vous êtes satisfait là de la prise de parole qu'en a faite le comédien ?
Oui, je crois qu'il a vraiment su se mettre dans la peau du narrateur, et c'est ce qui n'était pas chose évidente. Et puis, en tout cas, j'ai été très, très satisfait à l'écoute du texte.
Et vous, Sylvain Papoteau, maintenant vous avez entendu justement cette juxtaposition entre le texte de Quentin et votre musique, êtes-vous aussi satisfait du résultat ?
Oui, tout à fait. Disons, ce qui m'a vraiment touché dans ce texte et ce que j'ai cherché, c'est bien sûr, il y a le tempérament du narrateur où on sent une certaine condescendance qui confine même parfois au mépris. Moi, ce que j'ai vraiment voulu rendre dans la musique, c'est l'intériorité. Qu'est-ce qui est la cause de tout ça? Cette urgence de vivre, le fait de voir l'inévitable condition ou la normalité dans laquelle on peut vite se laisser tomber comme quelque chose d'insupportable contre lequel on se bat. C'est vraiment, je voulais pas reproduire simplement le texte, je voulais en donner une dimension intérieure.
Et votre lecture à vous peut-être aussi.
Et ma lecture, bien entendu.
Jean-Michel ?
Oui, moi, une des choses qui m'intéresse, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un texte sur une sorte d'entre-deux âges dans lequel vous êtes. Et le souper de classe est l'occasion de se souvenir de l'âge d'enfance. Et puis, il y a cette idée qu'on bascule à un certain moment dans l'âge adulte. Alors, selon comment on envisage le contenu de ce mot adulte, mais c'est vraiment cet entre-deux. Moi, j'ai des enfants qui ont à peu près votre âge, qui ont lu ce texte, et ça les intéresse, non pas qu'ils se situent forcément comme vous ou comme les copains, mais c'est entre deux, ces deux pôles dont moi je me souviens aussi au temps de mon adolescence ou au temps de jeune adulte, où on sait qu'il y a des choses qu'on risque de perdre, peut-être c'est pas exactement ce que vous voulez dire, mais qu'on risque de perdre, qu'on risque d'abandonner. Et que ça fait peur, et il y a une espèce de refus, alors on peut dire de la mort du vieillissement, je suis pas sûr que c'est de la mort du vieillissement, mais c'est en tout cas une difficulté à... C'est amusant, on a eu une petite conversation aussi sur le texte où vous disiez que vieillir c'était tout à coup avoir l'impression qu'on va avoir des responsabilités. Et moi je vous expliquais que pour ce qui me concerne c'était l'inverse.
Ah bon?
Mais ben oui, c'est-à-dire que maintenant, ça y est, les enfants sont élevés, le boulot, c'est la fin de carrière.
Après l'éducation des
enfants.
Mais
évidemment, être adulte, pour vous, c'est pas ça. Être adulte, c'est avoir 30 ans, se marier, être candidat au municipal.
C'est possible au PLR. C'est possible au PLR, même bien avant. Non, ça c'est évident. Je sais pas, oui, c'est peut-être en effet ce que je mets sous ce mot adulte et qui me fait peur et qui me fait repousser l'échéance le plus possible. Et je crois que j'y parviens à ma manière. Mais disons, je pense qu'il y a vraiment une crainte, il y a un sentiment de détresse qui ressort, disons, qui est à lire entre les lignes, si j'ose dire, de la colère qui est énoncée, disons, de manière assez frontale, et qui, cette manière aussi de s'en prendre aux autres qui ne sont pas parvenus à l'idéal que j'aurais eu pour eux. Et je pense qu'il y a quelque chose d'à la fois très égoïste et puis en même temps d'universel dans la manière d'aborder ce problème.
Mais je crois que vous vous en prenez fort heureusement aussi à vous-même. lorsque vous dites « j'ai envie de me sentir juste un tout petit peu au-dessus du commun des mortels », je ne sais pas si je vous décevrai en vous disant qu'à mon sens, vous n'êtes pas au-dessus du commun des mortels, mais que ce qui par contre est touchant, c'est le besoin que vous avez de vous sentir comme ça, le fait de le dire. Je crois que la deuxième partie du texte, après le souper, donne au texte sa profondeur. Parce que si on n'avait que le mépris, si on n'avait que l'arrogance, si on n'avait que le jugement porté sur les autres qui sont trop ceci, pas assez cela, qui boivent que de la bière alors que moi je prends autre chose, etc., ce serait limite pénible. Mais on comprend qu'il y a à travers ça. Et d'ailleurs, vous tenez à le dire, à pas passer pour le bad boy jusqu'au bout, dire à la fin, ne me prenez pas pour, je ne suis pas arrogant, je ne suis pas narcissique et prétentieux à l'extrême, juste désespéré, donc aimez-moi quand même.
C'est-à-dire que c'est aussi une question, je m'en prends plus facilement à moi-même qu'aux autres pour une question simple et presque technique, c'est-à-dire que je me fréquente même plus souvent que les autres. Là, le souper de classe, c'est 2 ans après, puis certainement on se revoit plus ensuite. Donc c'est, disons, une série d'égratignures, tandis que je suis quand même, comme tout le monde, seul avec moi-même pour la plupart des heures. Donc c'est vrai que c'est là aussi ce qui me fait avoir conscience que les faiblesses que je retrouve chez les autres sont encore souvent plus accentuées chez moi et m'écorcher avant d'écorcher l'autre.
Et on a parlé de crainte, on a parlé de peur. Ce qui vous fait peur, ce qui fait peur en tout cas à votre narrateur qui sans doute vous ressemble, c'est la normalité. Et là, on est justement, notamment dans la deuxième partie du texte, aux origines de votre besoin d'écrire. C'est-à-dire que pour vous, écrire, c'est échapper ou tenter d'échapper à cette fameuse normalité que partage le commun des mortels.
Absolument. Et c'est vrai qu'on en avait énormément discuté de ces sujets-là avec Sylvain auparavant. Et donc je pense que c'est vraiment, oui, je pense qu'il y a vraiment ce besoin-là. J'avais parlé de vanité dans le premier livre. C'est encore, à mon avis, du ressort de la vanité pris au sens large, c'est-à-dire essayer d'exister par le regard de l'autre, en montrant quelque chose, en sortant quelque chose, en essayant de s'élargir finalement de cette condition étroite, normale, et qui semble aller de manière comme ça calme, mais résolu et précipité vers quelque chose vers une condition qui est moins favorable, qui est moins enviable et qui est cette normalité.
Jean-Michel ?
Oui, je me demande si ce texte n'est pas aussi l'écho de la situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire une espèce de, Jean-Marie en parlait tout à l'heure, une reconnaissance, en tout cas dans certains cercles, très rapide pour un très jeune homme qui fait encore ses études de lettres. Et dans quelle mesure, d'autant plus que vous exprimez ce besoin de reconnaissance, ce narcissisme, ce besoin de vous, comme les gens qui disent quand ils gagnent un prix, un Oscar, ils disent « moi je m'en fous complètement, mais quand j'irai mal, j'irai prendre mon Oscar et puis je le regarderai, puis ça me fera du bien ». Donc tout ça, je me fais un peu de soucis pour vous quand même, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire, je me demande comment vous digérez tout ça, cette période que vous vivez.
Je me fais aussi du souci pour moi, disons, mais je pense que je vis bien cette période-là. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un succès, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est un succès aussi contrasté, où il y a des réussites, il y a aussi des échecs. Et ça, je ne crois pas que c'est vraiment...
Oui, mais enfin, dire ça, c'est presque... Moi, dire il y a des gens qui m'aiment pas, il y a des échecs, c'est, enfin, on parle de vous, quoi, en bien ou en mal. Donc ça peut quand même gonfler l'ego pas mal.
Je pense que ça peut gonfler l'ego, mais l'ego se gonfle pendant le souper de classe, se gonfle pendant la rencontre avec les autres, pendant une soirée, comme on le voit dans le texte. Et puis en même temps, le lendemain matin, il y a l'après-souper de classe, on se réveille, je suis en train d'écrire un troisième livre, j'ai toutes les difficultés, et même elles sont encore plus accentuées que pour le premier. Donc tout ça, ça se retrouve et il n'est pas question, disons, j'arrive pas devant mon ordinateur en me disant « mais là c'est parfait, t'as écrit 2 livres, t'es un génie, tu vas faire un livre merveilleux », c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Je disais que j'ai essayé de me mettre une discipline, j'y parviens, j'écris 2 heures le matin en général entre 8h et 10h. Ensuite, si je suis chez moi et que j'ai pas à l'université, je reste plus ou moins prostré pendant une dizaine d'heures en me disant que tout ce que j'ai écrit était de la merde. Et puis ensuite, je reprends le soir et je réécris de nouveau 1 heure.
Les afters un peu moins.
Mais donc, du coup, c'est pas quelque chose de facile et qui me fait me dire toute la journée, mon Dieu, j'ai fait quelque chose d'incroyable et là, je suis en dessus des autres. Pas du tout.
Une remarque plus littéraire, peut-être. Moi, je trouve intéressant que ce texte qui est, très clairement autobiographique, qui est très concret, qui raconte une histoire. Il y a en même temps quelques arrière-plans symboliques. On peut penser à la Divine Comédie de Dante, où on passe d'un cercle à l'autre, d'un cercle de l'enfer à l'autre.
Parce que il y a le purgatoire aussi.
Et le purgatoire, donc la métaphore est déclinée à travers ce purgatoire. Ce purgatoire, c'est cet entre-deux âges dans lequel vous êtes tous les deux, Sylvain et Quentin. Mmh. Sylvain. Vous êtes au purgatoire. On est parfois au purgatoire quand on est un jeune adulte.
Sylvain est un peu plus âgé que
toi. Oui, j'ai peu d'années de plus que Quentin, mais j'ai vécu ce purgatoire pendant toute ma deuxième adolescence, c'est-à-dire, on va dire, de 18 ans à 24 ans, qui fut très certainement la pire période de ma vie. Mais à présent, je prends un peu un recul sur tout ça et j'ai l'impression de retomber dans une perpétuelle adolescence, ou en tout cas de plus avoir cette tension et ce conflit entre ces deux âges.
Ouais, donc cette projection de l'âge adulte comme étant un emprisonnement, une inévitable normalité, vous pouvez rassurer un peu votre copain, c'est pas...
Disons, il y a une alternative à ça, même si...
On peut s'inventer comme adulte.
Vous disiez, Jean-Michel, à l'instant, qu'il y avait forcément une grande part autobiographique dans ce récit, le souper de classe. Et c'est vrai, Quentin Mouron, on a très peu parlé pendant la diffusion tout à l'heure de cette réalisation. Mais l'une des seules répliques que vous m'avez dites, lorsque j'ai pointé ce qui me semblait être une réplique assez cavalière, vous me dites, mais c'est romancé. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, c'est romancé?
Non, ça signifie simplement que, évidemment, je m'identifie avec le narrateur, mais ça reste quand même un narrateur qui convoque une structure romanesque et qui convoque une... J'ai jamais eu un souper de classe au Great Escape, moi, Quentin Mouron. D'ailleurs, je vais pas au Great Escape. Donc, je veux dire, c'est pas du tout... C'est-à-dire qu'il y a vraiment la convocation d'une structure romanesque, de quelque chose qui s'ajoute, des choses qui sont inventées. Donc, je ne veux pas pointer les différents éléments qui...
Mais Dante et la Divine Comédie, c'en était un, par exemple, qui n'est pas lié à un récit autobiographique.
Voilà. Non, alors en effet, alors c'est vrai qu'il y a cette interpénétration, comme pour le premier livre d'ailleurs, entre le roman... Et le côté biographique, le jeu, et je pense que c'est vrai que c'est moi ce qui m'intéresse quand j'écris, c'est pas de me raconter, de dire ce que j'ai fait le week-end d'avant. Je pense que c'est inintéressant pour l'auditeur, ça l'est pour moi aussi, puisque je le sais, j'ai pas besoin de le mettre par écrit. Mais c'est plutôt de retrouver peut-être la quintessence de certains éléments, et à partir de cette essentialité-là, redonner quelque chose, rediffuser au fond cette essence dans une structure romanesque, et donc arriver à quelque chose qui est de l'ordre de la fiction malgré tout.
Et je trouve qu'il y a moi, c'est une des choses qui me touche dans l'écriture de Quentin Mouron. Il y a quelque chose de crâne, de gonflé, dans la manière d'abord de dire « je », d'assumer son narcissisme, son envie de reconnaissance,
un jeu qui se démarque du commun,
et aussi dans l'écriture. C'est-à-dire, il y a un côté, moi, j'ai pas besoin d'écrire bien, de manière bien polissée. J'ose, avec Felipe, on disait sans... La comparaison a des limites, mais je sais que vous vous intéressez à Céline. Il y a une espèce d'incorrection, comme ça, assumée, une espèce... Et tout ça, je trouve, à la fois sincère, culotté et bien. Voilà.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Quentin Mouron, de nous avoir fait partager vos préoccupations de jeune écrivain ou tout simplement de jeune homme et d'homme en devenir. Vous le laissiez entendre tout à l'heure, on peut compter sur la prochaine parution d'un roman d'ici peu.
Absolument, normalement à la prochaine rentrée littéraire.
Et puis merci à vous, Sylvain Papoteau, merci d'avoir accompagné votre
merci
pote.
À, vous deux.
À bientôt. Entre les lignes vous était proposé par Jean-Michel Meyer et Jean-Marie Félix. Merci à Françoise Yenny qui a assuré la diffusion de cette émission et Madeleine Techer pour son assistance à la production. Cet entretien, comme tous ceux qui précèdent, est à votre disposition pour une réécoute, un téléchargement. Pour cela, vous passerez par notre page internet rts.ch/entre-les-lignes. Demain, vendredi, Entre les lignes cède sa place à Zone Critique. Annick Chuin et ses chroniqueurs débattront de quelques livres présents actuellement sur les présentoirs de vos libraires. Et puis après le Flash Info, Nicolas Julliard, entouré de ses invités et que de quelques chroniqueurs aussi, vous accueillera à l'enseigne de Magma pour des nouvelles de la scène musicale. Vous êtes à l'écoute de RTS Espace 2, il est très exactement midi.